J'aimerais que vous tourniez avec moi dans Marc, dans l'évangile de Marc, au chapitre 15.
Mark, chapter 15.
Marc au chapitre 15. Je lis dans la traduction du sommaire. Dès l'aube, le chef des prêtres tient conseil avec les responsables du peuple, les spécialistes de la loi et tout le grand conseil. Ils firent enchaîner Jésus, l'emmenèrent et le remirent entre les mains de Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?»« Tu le dis toi-même, lui répondit Jésus. » Les chefs des prêtres portèrent contre lui de nombreuses accusations. Pilate l'interrogea de nouveau et lui dit, « Eh bien, tu ne réponds pas. Tu as entendu toutes ces accusations qu'ils portent contre toi. » Mais au grand étonnement de Pilate, Jésus ne répondit plus rien. À la fête de la Pâque, Pilate relâchait un prisonnier, celui que le pape réclamait. Or, à ce moment-là, il y avait sous les verrous le nommé Barabbas, avec les agitateurs qui avaient commis un meurtre au cœur d'une émeute. La foule monta donc au prétoire et se mit à réclamer la faveur que le gouverneur lui accordait d'habitude. Pilate répondit, « Voulez-vous que je vous relâche, le roi des Juifs ?» Il s'était rendu compte, en effet, que les chefs des prêtres lui avaient livré Jésus par jalousie. Mais les chefs des prêtres persuadèrent la foule de demander qu'ils libèrent plutôt Barabbas. Mais alors, insista Pilate, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» De nouveau, ils crièrent, « Crucifiez-le » Qu'a-t-il fait de mal ? Eux, cependant, crièrent de plus en plus fort, « Crucifiez-le !» Alors Pilate, voulant donner satisfaction à la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre Jésus à coups de fouet, il le livra pour qu'on le crucifie. Nous allons terminer là notre lecture. Alors ce matin, j'aimerais faire avec vous deux choses. La première chose, c'est de voir qui est ce Pilate. Qui est ce Pilate? Et la deuxième chose, c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé lors du jugement de Jésus-Christ. De le faire par rapport aussi aux autres évangiles qui nous donnent d'autres détails et ce qui nous permet d'avoir une vue plus pleine, un point de vue plus complet de ces événements. Et bien sûr, à la fin, nous aurons une conclusion que j'aimerais faire très courte et en trois petits points. Mais d'abord, concernant Pilate. Qui était Pilate? Là, il nous est présenté de façon très très rapide et même sans qu'on nous dise vraiment qui il est. Hein? Il le remit entre les mains de Pilate. C'est parce que Marc écrit à l'église de Rome. Et il sait très bien que les gens de l'église de Rome savent qui est Pilate. Donc il n'a pas besoin de véritablement décrire qui il est. Mais Pilate c'était un gouverneur romain. Ponce Pilate, quelqu'un qui appartenait à la bourgeoisie romaine et dans sa carrière a été militaire et aussi administrateur. En l'an 26 de notre ère, il a été nommé procurateur ou gouverneur, si vous voulez, de Judée. Il s'occupait des questions militaires et financières. C'était à lui que l'on demandait de gérer le salaire du grand prêtre et aussi la gestion des biens du temple. Alors, vous allez voir, ça a causé quelques ennuis. Nous avons deux historiens, en plus bien sûr de la Bible, deux historiens qui nous parlent de Pilate. l'historien romain Tacite et deux chroniqueurs, pardon, un historien et deux chroniqueurs, hein, juifs, Joseph et Philon. Alors, Philon nous dit que le problème, un des gros problèmes de Pilate, c'est qu'il avait amené des boucliers en or pour orner sa résidence à Jérusalem. Alors normalement, l'administrateur romain, le gouverneur ou procurateur romain n'habitait pas à Jérusalem. Il avait une résidence qui était dans le palais, dans le palais de Hérode. Mais normalement, il vivait à Césarée. Hein, ça, c'était la résidence du gouverneur. Mais dans les grandes occasions, en particulier à la Pâque, où il y avait d'énormes foules qui venaient, je pense que le gouverneur avait tout intérêt à être à Jérusalem pour contrôler les choses et être sûr que cela ne dérive pas. Car comprenez-le bien, à cette époque, il y avait de nombreuses émeutes. Et d'ailleurs, le texte que nous venons de lire nous rappelle que Barabbas faisait partie d'un groupe d'émeutiers. Mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Alors, Joseph, lui, nous dit que Pilate avait voulu puiser dans le trésor du temple de quoi financer la construction d'un aqueduc. Et ça n'avait pas fait plaisir, bien sûr, aux Juifs. Le trésor du temple était consacré à Dieu, pas pour aller faire des constructions d'un aqueduc, même si c'était un aqueduc qui devait amener de l'eau à Jérusalem. Alors, le fait d'avoir amené les boucliers dans sa demeure avait été un problème parce que c'était des boucliers consacrés à des dieux et ça avait vexé le peuple d'Israël qui, la présence de ces boucliers pour eux était, comme c'était des boucliers consacrés, ça violait la sainteté, si vous voulez, de Jérusalem. Et on lui avait demandé donc de les enlever de sa résidence. Il avait bien sûr refusé. Les Juifs ont fait appel à l'empereur Tibère. Et finalement, c'était l'empereur Tibère qui avait ordonné le transfert des boucliers. Dans le second cas dont je vous ai parlé, cette histoire du trésor du temple, ça avait mené à des émeutes. Et Pilate avait demandé à ses troupes d'intervenir et ça avait fait de nombreux morts. Alors, la troisième erreur de Pilate, celle qui lui a été fatale en fait, c'est de faire arrêter et exécuter des Samaritains. Qui s'étaient réunis au mont de Garizim. Et là, toute la population samaritaine s'était insurgée. Et ça avait obligé le gouverneur de la Syrie, donc à côté, le supérieur de Pilate, d'envoyer des troupes pour aider. Et donc, à cause de cela, on avait demandé à Pilate de revenir à Rome. On nous dit que finalement il avait été exilé en Gaule où on pense qu'il s'est suicidé. On n'en est pas très très sûr, mais il semblerait, d'après certains historiens, c'est un historien du 4e siècle. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas être sûr si c'est vrai, mais d'après Eusèbe, l'historien chrétien du 4e siècle, Pilate se serait suicidé en Gaule à la suite. Alors ça c'est pour vous parler de Pilate. Pilate, c'était vraiment un politique. Et quelqu'un qui était considéré comme cynique et obstiné. Les Les gouverneurs, ceux qui étaient amenés à s'occuper de la justice, étaient normalement des gens droits. Des gens droits qui mettaient en avant les valeurs romaines de l'honneur, de l'intégrité et de la justice. Et comme nous allons le voir dans notre texte, ce n'est pas vraiment le cas de Pilate, lui qui cherche plutôt le compromis. Et ce qu'il veut, c'est éviter les ennuis, même si la justice est desservie. Alors, à travers le texte, essayons maintenant de mieux comprendre ce qui se passe. Et avec cette introduction que je vous ai donnée sur Pilate et Pilate, peut-être que vous allez mieux comprendre la situation. Les Juifs ont fait prisonnier, comme vous le savez, dans la nuit du jeudi à vendredi, ont fait prisonnier Jésus, l'ont amené et il y a eu plusieurs procès. Ça, c'est pendant la nuit, au tout petit matin, plusieurs procès déjà, où ils ont accusé Jésus de toutes sortes de choses et la chose qui les a vraiment leur a permis de dire qu'ils voulaient qu'ils soient condamnés à mort, c'était que dans leur tête, Jésus avait blasphémé en se disant être le Messie qu'il allait être assis à la droite de Dieu le Père. Et cela, pour eux, c'était un blasphème. Et donc, ils décident, comme nous dit le verset 1, ils décident de le remettre aux mains de Pilate, après avoir tenu conseil. Et là, nous avons Pilate qui va interroger Jésus. Et là, ce qui est étonnant dans notre texte, c'est qu'il nous est dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Visiblement, cela faisait partie des accusations. C'est là où l'évangile de Luc est très intéressant, parce qu'au chapitre 23 et au verset 2, on voit qu'en fait, il y avait trois accusations qui avaient été amenées par les Juifs à Pilate. Et même à la fin, ça c'est dans l'évangile de Jean, il y aura même une quatrième accusation rajoutée. Donc, les trois accusations du départ, déjà, le premier c'était de jeter le trouble parmi le peuple juif. Et même au verset 5 du chapitre 23 de Luc, il nous est dit que ce trouble avait commencé en Galilée, s'était propagé en Judée et était même arrivé à Jérusalem. Jésus, c'est un fauteur de troubles. Il perturbe le peuple. Deuxième accusation, Jésus a interdit de payer l'impôt à l'empereur. Alors ça, on sait que c'est totalement faux. Jésus a dit, lorsqu'on lui a posé la question de payer l'impôt, il vous souvenait, il a dit, donnez-moi la pièce avec laquelle on paye l'impôt. C'est qui est représenté sur la pièce? On lui a répondu, c'est César. Mais rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donc clairement, Jésus n'était pas contre payer l'impôt. Donc la seconde accusation est totalement fausse. Et d'ailleurs, on voit que Pilate ne la reprend pas. La troisième accusation, c'est celle qui est reprise, c'est que Jésus s'est déclaré être le Messie, c'est-à-dire le roi. Et c'est là la difficulté. Or, il est clair que lorsque, dans Jean chapitre 18 et à partir du verset 34, Pilate va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière cette idée de roi, le Seigneur Jésus va dire, oui, il est bien roi, mais pas de ce monde. Son royaume n'est pas de ce monde. Donc pour Pilate, oui d'accord, il est accusé comme étant roi, mais c'est un roi d'un royaume spirituel, et donc ça n'intéresse pas véritablement Ponce Pilate, qui lui, bien sûr, se préoccupe de la paix sur cette terre. Es-tu roi? Et le Seigneur Jésus de lui dire oui. Oui. Alors, Jésus, attaqué, ne répond pas. Il semble que, cependant, que d'autres accusations sont données. Hein, on voit au partir du verset 3, hein, les chefs des prêtres portèrent contre lui de nombreuses accusations. Et on nous dit que Pilate va l'interroger à nouveau. Ce qui ne nous est pas dit, c'est qu'en fait, le procès avec Pilate a eu lieu en deux fois. Il a eu lieu en deux fois parce que, à un moment, il va être envoyé pour voir Hérode Antipas, qui était responsable de la Galilée. Et lorsque Pilate apprit que Jésus faisait partie de la Galilée, hein, de ces personnes de la Galilée, il va essayer de se débarrasser du problème. Le problème, c'est que Hérode Antipas ne va rien faire d'autre que se moquer de Jésus, qui lui, qui refuse absolument de répondre quoi que ce soit, et le renvoyer. Donc, Pilate est vraiment ennuyé, d'autant plus que si on lit dans Matthieu au chapitre 27 au verset 19, on ne peut pas le faire, mais vous pourrez, je vous donne les références, il y a une autre chose qui se passe dans ce procès. Dans la seconde partie du procès, lorsque Jésus est renvoyé au palais, eh bien, la femme de Pilate va lui faire parvenir un message qui dit que pendant la nuit, elle a fait des cauchemars à cause de cette femme et que c'est un homme qui est juste. Et donc, l'épouse de Pilate lui dit « Fais attention avec ce cas » et certainement, cela a joué dans le procès. À part que Pilate a deux grands ennuis. Alors on nous dit qu'il est étonné de l'attitude de Jésus. Jésus qui à un moment arrête de parler et là il cherche des solutions. Il cherche des solutions, on nous dit, verset 6, à chaque fête de la Pâque, Pilate relâchait un prisonnier, celui que le peuple réclamait. Or, à ce moment-là, il y avait sous les logos un nommé Barabbas avec les agitateurs qui avaient commis un meurtre au cours d'une émeute. Alors, le verset le mot agitateur, en grec, c'est un mot qui est utilisé par Joseph pour parler d'un groupe particulier de juifs qui étaient des juifs virulents, qu'on appelait les zélotes, et qui voulait chasser le peuple, les Romains, de la terre d'Israël. D'accord ? Donc, quand on voit ce mot apparaître ici, on n'est pas sûr, c'est le même mot qu'utilise Joseph, on n'est pas sûr que Joseph l'utilise de la même façon que Marc, mais il y a des probabilités que ce Barabbas, en fait, n'est pas un voleur. Et d'ailleurs, que les deux personnes, les deux brigands à la croix, peut-être non plus ne sont pas vraiment des voleurs, parce que normalement, comprenez bien, le vol n'était pas une peine capitale pour les Romains. Et la croix était réservée pour les esclaves en fuite et pour ceux qui se révoltaient contre l'État. Donc la croix, c'était une peine de mort très particulière, ce n'était pas pour tout le monde. Les Romains ne crucifiaient pas tout le monde, ils avaient d'autres façons de tuer, de condamner un homme. Donc le fait que les deux prisonniers sont crucifiés, on dit dans la Bible que ce sont des brigands, mais probablement c'était des zélotes qui eux-mêmes avaient été faits prisonniers avec Barabbas pendant cette révolte, une des nombreuses révoltes qui arrivaient dans ces temps-là, et il y en a deux qui sont crucifiés. Et l'autre chose qu'il faut noter, c'est cette histoire de permettre qu'une personne à Pâques soit libérée. Alors, de quoi de quoi est-ce que ça nous parle? Eh bien, il faut savoir que on n'a aucun document qui nous relate, hors des évangiles, cette histoire de libérer un prisonnier. Alors ça pourrait nous poser des problèmes. Sinon de savoir que les procurateurs romains avaient quand même une certaine liberté. Et preuve de cette liberté, on a retrouvé un papyrus. Alors pour ceux que ça intéresse, je vais vous le donner, mais les autres, je vous donne les références du papyrus. C'est le papyrus Florentinus. Florence, c'est un Florentinus, 61. Et donc, 61.59, ça nous raconte l'histoire d'un gouverneur romain en Égypte qui s'appelait Septimus Vegetus et qui déclare à Phibion, alors c'est avec PH pour ceux qui prennent des notes, hein, Phibion, PH, qui était l'accusé, tu as mérité le fouet, mais je vais te rendre au peuple. Donc visiblement, ce qui se passe là était arrivé à d'autres endroits, peut-être pas pour des condamnés à mort, mais au du moins pour des condamnés. Alors peut-être que c'est Barabbas, peut-être que c'est Pilate qui avait mis en place ce système pour quelque part apaiser la foule, on ne sait pas. Mais toujours est-il qu'il y a une foule qui est là et qui attend la libération de quelqu'un. Et là, on note que Pilate va faire une tentative de libération de Jésus. En fait, lorsqu'on reprend le procès à travers tous les évangiles, on s'aperçoit qu'il va par trois fois essayer de se débarrasser de la question de Jésus sans le mettre à mort. La première fois, je vous l'ai dit, c'est quand il envoie voir Hérode Antipas. Il se débarrasse du problème, il dit bon, lui va le régler, s'il le met à mort, c'est son problème, pas le mien, et peut-être même qu'il va le libérer, moi je ne veux plus en entendre parler. Le problème, c'est qu'Hérode Antipas le renvoie. La deuxième fois, c'est là maintenant, il va proposer que ce soit Jésus qui soit libéré plutôt que Barabbas. Mais visiblement, la foule était venue pour Barabbas. Pilate va rajouter, il va leur donner le choix. Alors je pense pas que c'était l'habitude, hein. L'habitude, on libérait une personne, voilà, on a choisi un tel, c'est lui qui est gracié, et on le renvoyait. Mais là, il va leur donner à la foule le choix en espérant, dans sa tête, il se dit, Jésus, c'est quelqu'un qui avait des choses qui sont bien, ils vont certainement le choisir, et comme ça, peut-être les chefs juifs ne seront pas heureux, mais c'est la volonté du pape. À part que le texte nous dit que le pape, le chef des prêtres, persévère la foule de demander qu'il libère plutôt Barabbas. La troisième façon dont Pilate va essayer de se débarrasser du problème, et c'est à partir de Jean qu'on le sait, à partir de Jean chapitre 19, Pilate va faire fouetter Jésus. Alors, comprenez bien, faire fouetter Jésus, ce n'est pas une condamnation à mort. Parce que le fouet des Romains, ça s'appelait un flagellum, le fouet des Romains était un fouet particulier avec plusieurs lanières en cuivre. Il y a des enfants, j'essaie d'être pas trop graphique, mais les lanières en cuir avaient au bout des morceaux d'os et des morceaux de plomb, de métal, ce qui fait que le fouet arrachait la peau du dos. Non seulement la partie de la lanière faisait des grosses marques sur le dos, mais l'autre partie qui était au bout, lorsqu'on retirait, eh bien, arrachait aussi la peau. Alors on dit que souvent, la plupart du temps, ceux qui avaient été battus par les Romains de cette façon-là en mouraient. Parce que le dos était tellement endommagé, ça causait énormément de saignements. Et les gens n'y survivaient pas. Les Juifs, d'après leur loi, avaient une règle qu'on ne pouvait donner que 40 coups de fouet. Alors c'est à partir de Deutéronome, pour ceux qui prennent des notes, Deutéronome 25:3. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que Paul, plusieurs fois, avait reçu ces 40 coups de fouet moins 1. Les Juifs considéraient que si on donnait... il ne fallait pas donner plus de 40 coups de fouet parce que là, ça équivalait peut-être à une peine de mort. Donc, il faisait 39 coups de fouet pour être sûr de ne pas dépasser le compte. Hein, voilà, ça c'était assez typique. Et Paul avait plusieurs fois, on trouve ça dans 2 Corinthiens au chapitre 11 et au verset 24, plusieurs fois, il avait été frappé de cette sorte. Mais le fouet romain, c'était différent. D'abord, il n'y avait pas de limite de coups. Et en plus, il semblerait que 2 personnes se tenaient pour fouetter, une de chaque côté. Le prisonnier, normalement, était mis sur un poteau avec les bras en haut et un garde de chaque côté avec les fouets et à le tour de rôle, il frappait des deux côtés. Ce n'est pas la seule chose qui est arrivée à Jésus lorsque les soldats romains se sont occupés de lui, si on peut dire. Non seulement ils le fouettèrent, comme Pilate avait demandé de le faire, et probablement en faisant ça, Pilate voulait émouvoir la foule pour qu'elle se dise « Oh, il a vraiment beaucoup souffert, il est en train de c'est suffisant. Il a assez souffert comme ça. » C'est ce qu'on pense à partir justement de ce que nous dit Jean dans son évangile. Mais rien ne marche. Et non seulement Jésus sera fouetté, mais les soldats vont se moquer de lui. Ils vont lui planter une couronne d'épines sur la tête et le frapper à coups de bâton. Il est très très étonnant de voir comment l'être humain est cruel. Je ne sais pas pour vous, moi j'aime beaucoup l'histoire. Alors je lis l'histoire, mais je suis toujours abasourdi en lisant l'histoire de la cruauté de l'humanité, avec l'inventivité sadique que les êtres humains ont pris à travers les siècles pour tuer les gens, pour les faire souffrir. Et comment les foules, une fois qu'elles sont poussées par les uns et les autres, comment les foules se retrouvent à être poussé à la plus grande cruauté. Et si on pensait que c'était des histoires du passé, je vous rappelle ce que Daesh est en train de commettre en Irak et en Syrie, et ce qui vient d'arriver en Éthiopie avec cette école qui a été attaquée par d'autres islamistes. Ce qui est assez extraordinaire, c'est de voir comment tous nous avons cette capacité en nous de faire le mal et poussés par les autres de faire un mal extraordinaire. Les Allemands, pendant la Seconde Guerre mondiale, n'étaient pas tous des monstres, et pourtant beaucoup, qui n'étaient pas des monstres, dans une atmosphère où la monstruosité était acceptable, se sont retrouvés à faire des choses qui nous effraient. Des choses qui nous semblent absolument incroyables. La Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs. Et nous voyons là. Pilate savait que Jésus-Christ n'était pas coupable. Dans l'évangile de Luc, par 2 fois, il dit « Il n'est pas coupable ». Ici, il essaye de le faire relâcher. On voit dans l'évangile de Jean aussi qu'il essaye de le faire relâcher. Ce qui fait qu'à un moment, C'est dans l'évangile de Matthieu.
In the Gospel of Matthew.
Pilate se lave les mains de la faim. Il ne veut plus en entendre parler. Il ne veut pas prendre la responsabilité de la condamnation. Pourtant, c'est sa responsabilité.
It was his responsibility.
Alors, mes amis, maintenant qu'on comprend mieux un petit peu ce qui s'est passé, on s'est déjà dit une dernière chose. À la fin du procès, il y a eu une quatrième accusation. C'est encore une fois dans l'évangile de Jean qu'on le trouve. Il y a une quatrième accusation qui est donnée, c'est que Jésus s'est dit être le Fils de Dieu. Et là, Pilate est horrifié. Il est totalement horrifié. Il va s'approcher de Jésus, demander si c'est bien vrai. Et Jésus va lui dire que oui, et que tout pouvoir vient d'en haut. Parce que Pilate s'imagine avoir le pouvoir, mais en fait, c'est Dieu qui a le pouvoir même dans cette situation. Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 19 et au verset 12 qu'alors que Pilate est en train de vraiment essayer de libérer le Seigneur Jésus, les Juifs le regardent et lui disent « Si tu fais ça, nous dirons que tu n'es pas l'ami de César. » Et ça, c'est la chose que Pilate ne peut pas supporter. Il ne peut pas avoir une nouvelle plainte contre lui. Et donc, pour sauver sa peau, pour sauver sa gouvernance, il trahit sa conscience. Et il avoue se laver les mains. Il sait bien que ce sang est sûr. Alors j'aimerais, maintenant qu'on a vu ce texte, j'aimerais vous proposer trois petites conclusions. D'abord pour nous tous, chacun d'entre nous, lorsque nous venons à Christ, nous devons subir des pressions. Certains ne viennent pas à Christ à cause des pressions de leur famille, de leurs amis, au travail. Pilate a eu la pression du peuple. Il a eu la pression des dirigeants juifs. Il a rencontré Jésus. Il savait qu'il était innocent. Et pourtant, il l'a condamné. Il a eu peur de se mettre dans le camp de Jésus. Parce que de se mettre dans le camp de Jésus peut apporter des persécutions. D'ailleurs, le Seigneur Jésus nous a dit que si nous étions ses disciples, nous serions à notre tour persécutés. Alors, je vous dis cela, les amis, pas qu'en France on soit grandement persécuté, mais certains d'entre nous ont peur que notre réputation soit entachée, que certains pensent que nous sommes des fous. Et cela est suffisant pour certaines personnes pour ne pas venir à Christ. Nous ne pouvons pas nous laver les mains de la vérité. Si Jésus est vraiment mort et vraiment ressuscité, alors il est le Seigneur qui un jour nous jugera. Et si vous inquiétez dans votre vie du jugement des autres, je vous dis que vous ne vous inquiétez pas du bon jugement. Le jugement dont il faut s'inquiéter, c'est le jugement de Dieu. Dans la Bible, alors ça c'est pour les personnes qui viennent le mercredi soir, nous étudions le mercredi soir le livre de Samuel dans l'Ancien Testament. Et le livre de Samuel dans l'Ancien Testament est très intéressant parce que nous voyons la royauté en Israël s'établir. D'abord avec un roi qui s'appelle Saül et après avec un roi qui s'appelle David. Tous les deux sont des guerriers. Tous les deux ont un certain charisme. Et ce qui fait la différence entre David et Saül, c'est pas qu'il y en a un qui est parfait et pas l'autre. Ils font tous les deux des erreurs. Même des graves erreurs. Mais c'est que nous voyons que ce qui préoccupe constamment Saül, c'est ce que les autres pensent de lui, non pas ce que Dieu pense de lui. Constamment. Il ne se préoccupe pas du jugement de Dieu, il se préoccupe du jugement des autres. Avec David, c'est le contraire. Ce que les autres pensent de lui, lui importe peu. Ce qui importe, c'est le jugement de Dieu. Et lorsqu'il pêche avec Bathsheba, oui, il a péché contre les personnes. Et la première chose qu'il se rend compte, c'est qu'il a péché contre Dieu. C'est toute la différence. Est-ce que votre vie est sous le regard de Dieu? Est-ce que vous vous préoccupez de son jugement sur votre vie? Ou est-ce que vous vous préoccupez plus du jugement des autres? Je vous garantis, vous ne pouvez pas vivre véritablement la vie chrétienne si ce qui vous est préoccupant premier, c'est le jugement des autres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une ironie absolument extraordinaire dans notre texte. Cette ironie, c'est que Jésus, lui qui avait refusé de diriger une insurrection, dans l'évangile de Jean, chapitre 6, nous avons l'histoire de la multiplication des pains et des poissons, si vous vous souvenez. Et le Seigneur Jésus renvoie ses disciples. Et après lui-même, il s'enfuit. Pourquoi? Parce qu'il savait que ces personnes qu'il venait de nourrir, ces milliers de personnes qu'il venait de nourrir, voulaient le nommer roi. Ils voulaient le prendre pour qu'il soit roi, pour les libérer, probablement des Romains. Jésus ne voulait pas ça. Jésus, toute sa vie, a eu des occasions de mener une insurrection. Ça aurait été facile. Mais il ne voulait pas ça. Et c'est parce qu'il ne voulait pas ça, probablement qu'il a été trahi par Judas. C'est parce qu'il ne voulait pas ça, probablement que la foule s'est tournée contre lui. Parce qu'eux voulaient un Messie qui les libère des Romains. Et la chose extraordinaire, l'ironie de l'histoire, c'est que Jésus qui refuse de mener une insurrection est jugé comme quelqu'un qui voulait faire une insurrection. Exactement le contraire. C'est la première ironie. La deuxième ironie, c'est que Jésus est accusé de blasphème en disant qu'il est le Fils de l'homme qui siège à la droite de son Père, qu'il est le Fils de Dieu. Un blasphème, c'est de dire quelque chose contre Dieu. Mais lorsqu'on dit la vérité, on ne peut pas dire quelque chose contre Dieu. Jésus s'est présenté tel qu'il était. Et cela lui a été compté comme étant une faute. Le tribunal a jugé tout à l'envers. Tout à l'envers. Accuser Jésus d'être un roi, mais c'était un roi pas de ce monde. Accuser Jésus de vouloir faire une insurrection, alors que tout ce qu'il voulait faire, c'était transformer nos cœurs. L'insurrection de nos cœurs. La transformation de nos cœurs. Ça, c'est pour la deuxième chose. La troisième chose, c'est que on peut regarder tout ça, on peut crier à l'injustice, et c'en est une. Mais ça serait ne pas véritablement comprendre quel était le plan de Dieu. Nous l'avons lu dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, c'est bon de le relire. Dans Ésaïe 53, à travers tous ces événements que nous venons de lire, oui, il y a la méchanceté et l'injustice de l'être humain, oui, il y a le péché qui se rebelle contre la justice, mais il y avait aussi le plan de Dieu en avance, en train d'avancer. Nous étions tous errants, pareils des brebis, nous dit Ésaïe 53, verset 6. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Au verset 8, il est dit, il a été arraché à la vie par la contrainte suite à un jugement et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sein. Lorsqu'il a été retranché du pays des vivants, il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau parmi les criminels. Jésus a été crucifié entre deux brigands et son sépulcre parmi les riches. Jésus a été enterré dans la tombe d'un homme riche. Verset 19. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il vivra, verra une descendance. Il vivra de longs jours. Et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur le juste les déclarera juste et se chargera de leur faute. Le Seigneur Jésus, en mourant à la croix, en subissant ce que nous venons de voir, a pris sur lui-même vos fautes et vos péchés. Il est intervenu, nous dit le texte, en faveur des coupables. Devant Dieu, nous sommes tous coupables. Mais gloire à Dieu. Il a permis que le Seigneur Jésus subisse toutes ces choses, toute cette injustice, toute cette méchanceté, toute cette cruauté, afin de pouvoir nous racheter de nos fautes et de nos péchés et de faire de nous des enfants de Dieu. Ça serait dommage de passer à côté de ces choses. Nous avons toutes sortes de pressions qui nous disent de cacher qui nous sommes en tant que chrétiens et de venir à Christ à un coût social. Et dans certains pays, un coût qui est beaucoup plus que social. Ça va même jusqu'à la prison, la persécution, pas encore dans notre pays. Mais à qui voulez-vous obéir? Aux hommes ou à Dieu? Dieu a un projet. Le plan n'était pas juste pour Jésus, il est aussi pour vous, pour chacun d'entre vous. Vous pouvez marcher dans ce projet en plaçant votre confiance en Christ. Et une fois ayant fait cela, en continuant de rechercher sa volonté en toutes choses, et de faire de dire la vérité, de faire ce qui est juste, quel que soit. Quelles qu'en soient les conséquences, parce que c'est Dieu qui nous regarde. Je propose de prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole, pour les différents témoignages des évangélistes, que ce soit Matthieu, Marc, Luc ou Jean. À travers ces différents témoignages, nous avons une compréhension plus complète de ce qui s'est passé. Il y a 2000 ans, ce matin, ce vendredi matin, lorsque, Seigneur, tu as été balloté de droite à gauche, tu as été maltraité, tu as été accusé de façon injuste. Seigneur, Pilate n'a pas choisi le bon chemin. Peut-être certains d'entre nous n'osent pas venir à toi, Seigneur, parce qu'ils ont peur de ce qu'en penseront les autres. Il faut choisir Dieu ou les hommes. Seigneur, pour nous, nous avons choisi. Et parfois, nous ne vivons pas d'une façon qui est bonne, mais nous avons choisi. Nous nous laissons aussi influencer par ce monde. Nous nous préoccupons de ce que ce monde pense plutôt que ce que toi tu penses. Pour cela, nous te demandons pardon. Seigneur, restaure en nous des cœurs qui soient vraiment purs et saints, avec un désir d'intégrité et de justice et de vérité et d'amour et de grâce, de patience, de bienveillance. Seigneur, transforme-nous. Utilise-nous pour ta gloire. Nous prions tous ces choses. En ton nom.